deux pas de chez toi.
Voir qu'on redonne des sourires, ça fait toujours plaisir.
Votre magazine de reportages, de témoignages, à la découverte de Reims, ses habitants, ses habitantes et de ses alentours.
Faire ce qu'on veut, quand on veut.
On rencontre des personnes différentes, très différentes les unes des autres. Et c'est... Ça, c'est génial aussi.
À deux pas de chez toi.
Pour qu'ensemble, nous puissions créer un nouveau monde dans lequel les femmes sont plus solidaires, plus unies, pour créer un monde où règne l'amour, la solidarité, l'entraide.
Prenez le temps d'explorer ce qui se fait sur notre territoire avec Radio Primitive. Et bienvenue dans cette nouvelle émission à deux pas de chez toi sur Radio Primitive. Aujourd'hui, nous allons vous emmener avec notre premier sujet au Cabaret Vert à la rencontre d'une techno-activiste, Mathilde Caillard et MC Danse pour le Climat. Elle nous parlera de militantisme musical, mais juste avant, c'est deux bénévoles très investis qui vont nous parler de leur mission pour leur association Alma 51. Radio Primitive s'est rendue à une des permanences tenues par les bénévoles de l'association Alma 51. Chaque semaine, de manière anonyme, dans les locaux de l'ORPA, elles répondent à et accompagnent des personnes autour des questions de maltraitance des personnes âgées ou des personnes handicapées. Un engagement essentiel auprès de ces publics dits plus vulnérables. Nous vous emmenons à leur rencontre pour qu'elles nous parlent de leur association et de leur rôle au quotidien dans cet accompagnement.
Nous sommes le ALMA 51-10-08 et on est le relais du 39-77, le numéro national Allô Maltraitance Personnes Âgées et Handicapées. Et notre mission est de recevoir des appels ou des courriers. On a un site mail, un dossier, voilà, il y a même un site internet pour le 39-77 de personnes victimes de maltraitance concernant les personnes âgées et handicapées, adultes et victimes de comme je dis, ou de maltraitance ou de négligence et qui sollicitent notre aide.
De l'écoute, du conseil, voilà. Vos missions, elles consistent en quoi précisément alors ?
Voilà, exactement ça, de l'écoute, du conseil, de transmettre les demandes au niveau des ARS quand ça concerne des établissements, au niveau du conseil départemental qui retransmet ça aux assistantes sociales de secteur pour ce qui est des maltraitances, négligences à domicile. Mmh. Et donc nos appelants sont soit les personnes elles-mêmes qui se considèrent maltraitées, négligées, soit les familles, soit l'entourage, les voisins qui ont repéré ou dans le milieu professionnel. Ça arrive aussi quelquefois qu'ils ont repéré quelque part qu'il y avait une personne qui était victime de maltraitance, de négligence et qui peuvent transmettre de façon anonyme s'ils le souhaitent, c'est-à-dire qu'en fait, l'anonymat, ils doivent quand même nous donner leurs coordonnées parce que les organismes officiels ne prennent en considération que des demandes identifiées. Mmh. Mais dans ce cas-là précis, on précise que la personne souhaite rester anonyme parce que c'est quelquefois délicat de signaler quelque chose pour ses parents, pour son voisin. Voilà, ça peut arriver. Il y a des maltraitances physiques, il y a des maltraitances financières, il y a des maltraitances psychologiques. Par exemple, on a quelquefois des dossiers qui nous sont transmis de familles qui dans les établissements, voient quelqu'un du personnel qui a des termes inconvenant inapproprié vis-à-vis du résident. Mm-hmm. Par exemple, c'est une chose qui arrive et on ne pense pas que c'est de la maltraitance, mais c'est considéré comme maltraitance, d'appeler une personne « Ah ben Pépé, comment allez-vous ?» On ne doit pas. On dit « Monsieur un tel, Madame un tel ». On ne doit pas tutoyer les résidents. On ne doit pas les appeler par leur prénom. Mais à ça, alors c'est une question d'appréciation. Mmh. À ça, il y a des nuances, parce que, par exemple, dans les personnes qui sont atteintes de maladies Alzheimer ou assimilées à Alzheimer, ils ne comprennent plus que quand on les appelle par leur prénom. Mmh. Mais dans ce cas-là, on voit avec la famille, l'important c'est souvent la communication. Beaucoup, souvent, c'est des problèmes de manque de communication. En disant, ben voilà, on vous demande, est-ce qu'on peut l'appeler par son prénom? Est-ce qu'on peut le tutoyer? Il faut que ce soit un accord entre l'entourage et le personnel de la résidence.
Je reprends là le cas précis que vous nous citez sur la résidence où on s'adresse à nous pas correctement. Oui. Du coup, là, votre travail, c'est aussi de la médiation, c'est...
Oui, voilà. Oui, on contacte la direction de l'établissement en disant qu'on a eu un signalement de maltraitance de tel type. Alors, quand même, très souvent, même si les gens veulent l'anonymat, la résidence sait, parce que il y a déjà eu des contacts avec la famille. Il dit ah bah c'est monsieur Attel, parce que les familles quand même déjà elles se sont entretenues, mais on essaye effectivement d'avoir un rôle de médiateur. Rencontrez-vous où on demande aux familles de faire partie du conseil d'établissement pour pouvoir discuter quand c'est des choses qui concernent je sais pas l'hygiène ou tout ça quoi.
Vous, en tant que bénévole, j'ai plusieurs questions sur ce statut de bénévole et votre position ici au sein de l'ALMA à vous poser. Déjà, comment on en vient à décider de faire du bénévolat dans ce type de structure? Parce que c'est un peu lourd, je pense, les situations auxquelles on peut être confronté.
Disons que la majorité, là, actuellement, on n'est que des bénévoles qui sortent du milieu médico-social. Des anciennes infirmières, des gens qui ont travaillé dans le médical. Et puis, c'est quand on a pris notre retraite, mais bon, on pourrait avoir des bénévoles qui sont des étudiants aussi, qui s'y intéressent. On a fait du social toute notre vie, donc on ne se voit pas ne pas en faire au moment de la retraite. En gros, c'est ça, quoi.
Ces femmes que vous entendiez sur Radio Primitive sont bénévoles à l'association ALMA 51 qui aide les personnes âgées ou handicapées victimes de négligence ou de maltraitance. Nous continuerons à parler de leur engagement pour cette association en tant que bénévole, des situations qu'elles rencontrent en tant qu'écoutantes, mais aussi de la possibilité de les rejoindre dans leur mission juste après une pause musicale en compagnie de la chanteuse de rhythm and blues américaine Ruth Brown. Mama, he treats your daughter mean.
Yeah.
pas de chez toi. Dans votre émission À deux pas de chez toi, nous sommes allés rencontrer les bénévoles d'Alma 51. Une structure d'écoute et de conseil au sujet de la maltraitance des personnes âgées et handicapées. Retrouvons nos deux écoutantes lors de leur permanence dans les locaux de l'Office des seniors du Grand Reims.
Vous dédiez combien de temps à peu près à l'ALMA? Parce que je suppose qu'on peut s'investir à différents niveaux. Mais du coup, vous, ça représente quoi à peu près dans vos quotidiens?
Alors, voilà. Donc, on a effectivement deux permanences par semaine. D'écoute, de dossiers, de rappel de dossiers que le 3977 nous a envoyés. On doit prendre contact avec les familles. Donc les permanences sont le lundi après-midi et le jeudi matin.
Voilà. Si alors pas.
Voilà. Donc pour ça, on se fait une feuille de planning et on s'inscrit en fonction de nos disponibilités. Si on est en vacances, on n'est pas systématiquement venir logiquement tous les lundis ou tous les jeudis. Lundi et jeudi. Et en plus, on a une permanence, je dirais, administrative, où on fait les enregistrements de dossiers, les statistiques. Parce que, effectivement, le 3977 est chapeauté par le ministère de la Santé et de la Solidarité. Donc, il demande des comptes de l'activité. Voilà. Donc, et puis, une fois par mois, on réunit toutes les bénévoles, plus une référente qui est du médico-social, et on reprend tous nos dossiers et on voit l'évolution, ce qu'on doit faire, ce qu'on envisage, se poser des questions sur mais est-ce qu'on oriente plutôt vers telle chose. Voilà, on doit jamais prendre on prend pas de décision seul. C'est toujours collégial.
Chacun d'ailleurs, peut donner son avis.
Oui, on donne son avis. Et d'ailleurs, lors des permanences, on doit systématiquement être deux. Parce que, comme je dis, on entend la même chose, mais on n'interprète pas de la même façon. Donc, quand on a raccroché, on discute déjà entre les deux écoutantes de la façon dont on pense qu'on doit faire évoluer le dossier dans un premier temps. Et puis à la réunion mensuelle, là, collégialement, on prend une décision de vers quelle direction on va. Le 3977 demande que dans les 6 mois où les gens se viennent en tant que bénévole, fasse une formation sur 2 jours qui est organisée par le 3977. Cette formation-là indique les cheminements et puis ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. La façon de faire évoluer les dossiers. Voilà. Et donc, même nous qui sommes des anciennes écoutantes, on a chacune 17-18 ans d'écoute là maintenant. Quand il y a une formation, on a eu le cas au printemps, qui sur Reims, ils sont venus nous faire la formation. Nous, on y retourne parce qu'on se dit qu'on aime bien une piqûre de rappel de temps en temps. Parce qu'on a oublié, parce qu'on a peut-être pris des mauvaises habitudes dans nos routines, voilà. Donc, on a déjà fait 2 fois des piqûres de rappel, nous.
Oui. Justement, comment ça se passe quand on veut devenir bénévole? Est-ce qu'on doit contacter l'ALMA 51 directement?
L'ORPA, oui.
Directement.
Directement.
On peut venir se présenter directement ici, oui. Et demander un rendez-vous.
Oui, bien sûr.
Et pour vous contacter? Pour les gens qui sont victimes de maltraitance et qui...
Alors, ils appellent le 03 26 88 10 79 ou alors par courriel alma51@orpa.com. Donc, soit pendant nos permanences lundi après-midi, jeudi matin, ou soit on nous laisse un message sur le répondeur ou le mail. Et puis, à partir de ce moment-là, on recontacte l'APLAN pour créer un dossier voilà, où on demande les références de l'APLAN, de la victime, de la personne mise en cause, voilà, le nom, le prénom, l'âge, l'adresse, et surtout les adresses, parce que quand souvent on envoie les travailleurs sociaux, si on n'a pas l'adresse précise, on nous dit on n'a pas trouvé la personne. Mmh. Donc il faut vraiment qu'on ait des renseignements le plus précis possible concernant la victime.
Vous m'avez dit que vous étiez des écoutantes expertes, plus de entre 16 et 18 ans d'expérience. Alors je suppose que du coup votre engagement vous plaît, sinon vous ne continueriez pas. Mais j'aimerais bien savoir ce que ça vous fait à vous de tenir ce rôle de bénévole.
Une certaine satisfaction, je dirais, oui. De d'aider. Oui. De pouvoir venir en aide aux gens dans le besoin, en fait.
Oui.
Quelquefois, il suffit de... C'est même pas des maltraitants, c'est simplement un échange.
Alors, la satisfaction qu'on a, c'est quand les personnes nous disent « Ah, merci, voilà, vous nous avez bien aidés ». Donc là, on est satisfait. Il y a quelques fois où gens, parce qu'on peut, on peut pas toujours solutionner les problèmes, nous disent « Vous ne servez à rien ». Ça arrive aussi.
Oui, ça arrive.
Bon, mais on le prend comme ça, mais c'est quand on est au bout du bout qu'on n'a pas pu aller plus loin, quoi. Mm-hmm. Ça arrive.
On le prend en tant qu'équipe aussi, peut-être, puisque vous disiez, vous travaillez à deux, il y a quand même ce sens du collectif quand vous faites partie de l'ALMA, entre bénévoles aussi.
Oui. On a des dossiers qui sont relativement légers, c'est la majorité, mais quelquefois, on a des choses... assez lourde à gérer. Donc il faut quand même, je pense qu'il faut avoir quand même
J'allais vous demander le profil, par exemple, comme on parlait de bénévolat tout à l'heure, c'est vrai que faut avoir quel type de compétences quand même. Vous diriez-vous en étant maintenant experte de l'écoute, quelqu'un qui veut s'engager, faut qu'il soit prêt à faire à quoi, faut qu'il ait quelles compétences surtout.
Je dirais qu'il faut faut avoir de l'empathie. Il faut avoir un sens de l'écoute.
Pas de jugement.
Et notre rôle, c'est surtout de ne pas juger, d'écouter, d'essayer avec la personne de résoudre son problème, mais surtout pas de jugement. Ça, c'est important. Bon, c'est vrai que nous, depuis le temps qu'on le fait, on est habitués, mais là, actuellement, on a beaucoup de mal à recruter des bénévoles parce que ça paraît leur faire un peu peur. Parce que c'est quand même une responsabilité, quoi. Donc, on a plusieurs personnes qui sont venues, mais qui ne sont pas engagées, parce que le rôle leur fait un peu peur.
Vous aussi, vous pourriez donner de votre temps à l'association ALMA 51, devenir écoutant, écoutante, et rejoindre cette équipe de bénévoles dévoués. Pour cela, il vous suffit de contacter l'Office des seniors rémois ou de vous y rendre. C'est au 4 rue Marteau, à Reims. À deux pas de chez toi. Vous êtes toujours dans « À deux pas de chez toi ». Après ces bénévoles de l'association ALMA 51 que nous découvrions sur Radio Primitive, nous partons en milieu festif pour rencontrer Mathilde Caillard, que vous connaissez peut-être sous le pseudo MC Danse pour le Climat. Membre du collectif Planète Boum Boum, Mathilde passait au Cabaret Vert pour allier musique et militantisme cette année et elle nous a accordé quelques minutes pour parler de son expérience et son ressenti par rapport au contexte de lutte actuel.
Techno-activiste, c'est ça?
Ouais.
Tu te définis comment? techno-activiste parce que moi j'en ai un collectif qui s'appelle Planète Boom Boom. À la base, on est des activistes de Action Justice Climat Paris et on utilise la musique pour porter nos messages. Et aux manifs notamment, on réfléchissait à comment donner encore plus de force au slogan. Et une manière de le faire, c'était on a eu l'idée de mettre un beat techno et de poser des slogans dessus pour qu'ils soient beaucoup plus rythmés et plus impactants, que ça fasse un peu comme des musiques un peu qui rentrent dans la tête. Et ça vient de la techno-activiste du coup.
Parce que c'est surtout dans les cultures d'Amérique du Sud et tout aussi où il y a cette. Ce côté, tu sais, en manif où il y a du son,
ouais.
Ce genre d'ambiance avec les batouks, les batoukadas, les trucs comme ça, chez nous, c'est vrai que c'est un peu calmours, quoi.
Bah ouais, pour les rythmes percussifs, carrément. Après, nous aussi, on a une histoire quand même des chants et de la lutte et de l'engagement, ça a quand même toujours été hyper présent. Je pense même à la Révolution française, où on avait des chants à la Carmagnole, ou les Sardinières de Douarnenez, hein, qui chantaient aussi des chansons pour porter leur lutte. En fait, ça a toujours été présent, la musique. C'est juste que, et du coup, c'est pour ça qu'on a conscience qu'on n'a pas inventé, hein. C'est vraiment juste on s'inscrit dans une histoire militante qui est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste.
Tu viens présenter quoi aujourd'hui? Tu nous parles de ce que tu vas raconter tout à l'heure?
Ouais, là du coup ça va être une table ronde sur la question des récits et comment aujourd'hui, alors qu'on a l'impression qu'on est en train un peu de perdre pas mal de batailles sur l'écologie, comment on continue à porter ce récit-là et pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas, quoi.
T'as encore de l'espoir, toi?
Oui, mais je dirais que l'espoir pour moi, ça me tombe pas dessus et c'est pas pour ça que je me mobilise, c'est plutôt parce que je me mobilise que j'ai de l'espoir. En fait, pour moi, il faut pas attendre que l'espoir vienne à nous pour ensuite se mettre en mouvement, il faut plutôt se mettre en mouvement et agir, et c'est comme ça qu'on fait naître l'espoir. C'est parce qu'on fait quelque chose. En fait, rien n'est jamais écrit à l'avance, il y a toujours tout qui peut changer, quoi. L'histoire, on peut jamais tracer des lignes droites en se disant mais il va se passer ça et dans tous les cas on va perdre. En fait, on sait pas si on va perdre, on sait pas si on va gagner. En revanche, je sais que si on ne fait rien, on va perdre, ça c'est sûr.
Il y a quand même grave de quoi avoir le seum, c'est des
trucs. Ah bien sûr, non mais il y a plein de choses qui peuvent qui font peur, qui sont anxiogènes, qui peuvent être tétanisantes, mais vraiment c'est hyper important de sentir aussi la force qu'on a quand on est ensemble et quand collectivement on se met en mouvement, et c'est ça pour moi, c'est là-dedans que je tire de la force.
La Vélorussie demain aussi.
Ouais.
Tu fais ça souvent, t'en penses quoi?
J'ai fait souvent des vélorussions, mais j'ai jamais mixé sur un vélo qui va me tracter pendant que je mixe, ça va être très chouette. J'ai hâte, non? En vrai, c'est hyper cool. C'est un peu des moyens aussi de réfléchir à faire des événements festifs de manière décarbonée, parce que quand on parle souvent de l'empreinte carbone du secteur de la musique et notamment des festivals, en fait, souvent on pointe du doigt les artistes qui prennent des jets privés. Alors bon, c'est problématique, mais en fait, c'est pas ça le plus gros impact carbone, c'est vraiment comment se déplacent les festivaliers. Et le fait que souvent ils sont pleins à prendre l'avion juste pour aller voir un festival, quand c'est un festival par exemple Coachella ou des trucs comme ça de cette envergure. Et donc une des manières de décarboner, c'est d'avoir des modes de déplacement qui soient pas polluants pour se rendre en festival. Et du coup là, de le faire à vélo, c'est chouette.
Justement, ici c'est quand même l'emblème aussi chez nous du festival écolo, le Cabaret Vert.
Ouais. Première fois que je viens, très contente.
Moi, tu vois, je me dis, par exemple, il y a des festivals qui veulent faire ces démarches-là, mais là, avec les coupes dans les budgets de la culture aussi, ça va peut-être impacter aussi ce côté écolo qu'aimerait bien voir aussi certains. Du coup, au final, tout est lié.
Ouais, carrément. Carrément. Et bien que tu parles de la culture, parce que nous, du coup, avec mon collectif Planète Boom Boom, on était très impliqués avec Culture en Lutte, qui est tout le mouvement en ce moment syndical, mais pas que, du milieu de la culture qui se bat contre les restrictions budgétaires. Parce que aussi, même quand on imagine un monde décarboné ou un monde où on lutterait concrètement contre la crise écologique, qu'est-ce qui nous resterait à la fin entre nous, les humains, pour avoir des liens entre nous? C'est l'art et la culture qui sont quand même des choses qui sont largement décarbonées. Il y a aussi peut-être l'amour aussi. Mais c'est ça, c'est les liens humains, quoi. C'est l'amour, l'art, la culture et les liens sociaux. Et les liens sociaux parce que la culture crée des liens sociaux, quoi. Et donc c'est hyper important de les préserver et de justement les réinvestir, ces espaces-là. Et pour le faire, il faut de l'argent. Et comme tu le disais, en fait, si on dépiote la culture de son budget, en fait, elle n'est pas en capacité d'ailleurs même de faire sa transition écologique. Et donc on était aux côtés de ces syndicats-là, à Culture en Lutte, à Avignon, pour faire une grande mobilisation de 2 heures où on a fait venir une fausse Rachida Dati qui faisait des fausses coupes budgétaires, enfin des vraies malheureusement, mais là c'était une fausse en l'occurrence.
Le 10, ça va rebouger là en septembre, tu vas t'activer aussi, comment ça va se passer?
Ouais, carrément, moi j'essaie de suivre un petit peu ce qui se dit, d'où ça va partir, les mobilisations prévues, je sais pas encore exactement ce que ça va donner, enfin personne peut vraiment le prédire, mais je suivrai évidemment avec grande attention, et je pense que c'est important que, en tant que mouvement de gauche, engagé, écolo, on se mobilise et on saisisse de la question et qu'on fasse pas comme l'erreur comme pendant les gilets jaunes, quoi.
Il y a la musique, mais il y a la danse aussi. Aussi danse.
Oui.
C'est quoi qui est venu avant? La musique, la danse dans ta vie?
Je dirais que ce qui est venu avant, c'est en fait l'engagement, c'est l'activisme. Moi, j'étais d'abord activiste. Je m'étais déjà appelée MC Danse pour le climat parce que j'aimais beaucoup. Enfin, en fait, c'est juste que quand on faisait des soirées avec mes amis dans la sphère militante, j'étais toujours la première à danser parce que j'adore danser, j'ai toujours adoré ça. Et donc, en fait, mes amis, enfin, c'était un peu une blague avec mes amis. Et du coup, je me suis appelée MC Danse pour le climat, mais à l'époque, je faisais juste des tweets et je parlais d'écologie. Et du coup, la danse est venue dans un second temps. Donc, en manif, quand il fallait les animer, bah, je dansais un peu pour donner un peu d'énergie, quoi. Et derrière, les slogans sont devenus des chansons. Et du coup, ça a fait activiste, danse, musique.
On va écouter les chansons que produit un des collectifs dans lequel Mathilde, aka MC Danse pour le climat, agit beaucoup. Ce collectif, il s'appelle Planète Boom Boom et on va se passer leur morceau Planète Brûlée.
Ils n'ont jamais été aussi nombreux à manifester à travers toute la France.
L'immense majorité des actifs français restent opposés à cette réforme.
Sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat.
Pas de retraités sur une planète brûlée, retraite, climat,
même combat.
Pas de retraités sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat.
Pas de retraités sur une planète brûlée, retraite, climat,
même combat.
Pas de retraités sur une planète brûlée.
Était au cabaret vert. Elle répond aux questions de Radio Primitive.
Aujourd'hui, dans un monde capitaliste et tout, c'est hyper dur d'être écolo, quoi. Tu vois, d'avoir des démarches écolo même au quotidien.
Ouais.
Et on a tous du boulot à faire là-dessus, quoi. Toi comme
ouais.
moi, comme tu vois. Qu'est-ce que toi, il te resterait à faire que tu aimerais bien faire bientôt, tu vois? Un petit, tu te donnes pas des petits objectifs des fois, tu vois, en mode
si,
ça,
carrément.
Ça serait bien que je le fasse plus. Ou...
Si, carrément. Bah moi, en vrai, j'ai quand même éliminé pas mal de choses de mon quotidien qui sont problématiques d'un point de vue empreinte carbone. Je prends plus l'avion. La dernière fois que je l'ai pris, c'était en 2019 et je l'ai pas beaucoup pris dans ma vie, mais je l'ai pris un peu quand même. Donc j'en ai plus jamais pris. Je mange pas de viande. Je me déplace à vélo. Enfin, en vrai, j'ai déjà un mode de vie plutôt sobre. Après, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais pour moi, c'est parce que c'est un champ de bataille politique et que tant qu'on n'aura pas gagné, bah, c'est important de rester dans ces espaces pour continuer à convaincre et pour pas laisser la place à l'extrême droite. Donc c'est pour ça que j'y reste. Et après, je pense que c'est important parce que, enfin, d'avoir ces petites réformes individuelles, bah, ça permet de s'engager, ça permet de maintenir un lien avec, enfin, de rester cohérent avec les idées qu'on porte. Après, je pense que c'est vraiment pas la mère des batailles. Il faut pas que ça nous détourne de l'attention de changer aussi les structures Et plutôt que le quand on veut, on peut, plutôt le quand on peut, on veut. Parce que c'est parce qu'on peut se déplacer, par exemple, en train d'un point A à un point B qu'on va vouloir le faire. Mais en fait, si jamais il n'y a pas de rail et qu'il n'y a pas de train et que la région elle va pas faire des tarifs référentiels et des tarifs sociaux, en fait les gens ils peuvent pas prendre le train. Donc c'est hyper important de se rappeler que voilà, on peut faire des choses parce que les structures nous le permettent. Et donc pour moi c'est important de mobiliser aussi d'un point de vue politique et structurel.
Les manifs ça devient aussi dangereux, tu vois, on a tous peur de se prendre un casier. Tu vois, moi à la radio on bosse avec des enfants, si je me fais arrêter en manif, bah potentiellement j'ai plus de boulot.
Ouais.
Alors que nos élus, c'est des jeunesse, tu vois. Enfin,
ouais, bien sûr.
Les gens qui ont peur de venir en manif, tu comprends? Qu'est-ce que tu leur dirais, tu vois?
Je comprends complètement. Aujourd'hui, alors, rappelez déjà que la manif, c'est légal. C'est protégé par la Constitution, ça fait partie de nos droits. Et le fait qu'on ait peur de le faire, c'est complètement... Ça devrait nous alerter d'un point de vue démocratique, en fait. Parce que c'est un mode d'expression démocratique qui, normalement, doit être protégé par, par l'état de droit, quoi. Et notamment par la police, qui, si jamais ils étaient vraiment des gardiens de la paix, ben, en fait, ils nous permettraient de manifester de manière pacifique et non dangereuse. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je comprends les gens qui ont peur. Je pense que c'est important de continuer à investir la rue et ensuite de le faire, essayer de rester proche des cortèges qui organisent quand on a envie de manifester sereinement. Et après, il y a plein d'autres manières de s'engager. C'est pas non plus la seule manière de s'engager, on peut le faire de plein de manières différentes. Il y a plein de gens qui ne sont pas en capacité de se mettre en danger d'un point de vue juridique. Je pense aux gens qui sont par exemple étrangers, qui ont des cartes résidents. Si jamais on est dans la fonction publique, aussi certains métiers, tu disais par exemple quand tu travailles avec un public d'enfants, mais pas que, il y a plein de métiers qui ne permettent pas de prendre ces risques-là. Et il y a plein de manières d'agir qui ne mettent pas en danger. Ça peut être signer des pétitions, ça peut être rejoindre des assos, ça peut être filer un coup de main à un événement comme le Cabaret Vert qui fonctionne grâce à ces 2500 bénévoles et qu'il n'y a que des bénévoles qui travaillent dedans et qui est un vrai lieu qui permet de faire festival alternatif, quoi. Donc il y a plein de manières de s'engager qui sont plus adaptées en fonction de ce qu'on peut se permettre ou pas de faire, quoi.
Radio Primitive remercie Mathilde, MC Danse pour le climat, pour cette petite aparté militante. C'était Mathilde Caillard au micro de Radio Primitive. Nous l'avons rencontrée lors de la dernière édition du Cabaret Vert. À deux pas de chez toi, c'est terminé. Vous pouvez retrouver le programme en podcast depuis notre site internet radioprimitive.fr. Et nous vous souhaitons une belle journée à notre écoute. C'était À deux pas de chez toi.
Voir qu'on redonne des sourires, ça fait toujours plaisir.
Votre magazine de reportages, de témoignages, à la découverte de Reims, ses habitants, ses habitantes et de ses alentours.
Faire ce qu'on veut quand on veut.
On rencontre des personnes différentes, très différentes les unes des autres. Et c'est génial aussi.
À deux pas de chez toi.
Pour qu'ensemble nous puissions créer un nouveau monde dans lequel les femmes sont plus solidaires, plus unies, pour créer un monde où règne l'amour, la solidarité, l'entraide.
Prenez le temps d'explorer ce qui se fait sur notre territoire avec Radio Primitive.